Parfait. C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle du chaos aux États-Unis, un scrutin hors du commun. Et pour m'accompagner, je suis avec mon expert géopolitique, Adjane Chélil. Salut Adjane.
Salut Thibaut, et oui, depuis la maison, hein, expert en claquettes depuis la maison, mais on est là pour effectivement...
Ah bah c'est 2020 ça, et 2020 bah oui. Tout est permis.
On est là bien sûr pour parler de l'élection américaine avec un suspense qui reste entier, hein, 48 heures après le début de l'élection. Thibaut, on sait toujours pas qui sera le prochain président des États-Unis. Alors ce matin, en me levant, j'ai vu qu'il y avait un avantage quand même pour Biden là, mais bon, franchement à mon avis avant mi-décembre on risque de pas trop savoir.
Hein. Ouais, quel chaos, c'est incroyable. C'est incroyable, pas tant que ça, puisque finalement on le voyait tous venir, hein, cette situation chaotique aux États-Unis. Je dirais presque que les braises étaient déjà chaudes. Hein. Il suffisait maintenant de tisonner un peu et ça repartait. Pourquoi ? Eh bien parce que ce scrutin américain, c'est vraiment un scrutin pas comme les autres, hein, parce qu'il fait suite à 5 ans de déchirement et de clivage. aux États-Unis, hein. Pas comme les autres aussi, parce que bien sûr, évidemment, il y a Donald Trump, le Donald, hein, l'incontrôlable, le maléfique Donald, et puis aussi parce qu'il y a cette histoire de pandémie, et du coup, en raison d'un énorme pic de vote par correspondance lié à la pandémie, eh bien, les résultats étaient d'ores et déjà annoncés, hein, plusieurs semaines à l'avance, plus ambigus, plus compliqués à gérer que les élections de 2020, en tout cas que les années plus compliquées, pardon, que les années précédentes. Et jusqu'à présent, eh bien, le scénario s'avère vrai.
Oui, alors rassurez-vous, hein, vous êtes en train de vous dire mais est-ce que j'ai branché France Inter et que je vais avoir une analyse de l'élection présidentielle ? Non, on va quand même parler réseaux sociaux un petit peu parce que cette élection présidentielle, elle a été rythmée et elle a été beaucoup commentée sur les réseaux sociaux et on en parle nous-mêmes, hein, depuis plusieurs semaines dans le Super Daily avec tout ce qui s'est passé autour de Facebook, Twitter, etc. Et aujourd'hui, on va essayer de décrypter un petit peu tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux durant un peu la campagne, mais surtout l'élection présidentielle de ces derniers jours.
Oui, et c'est vrai que ces élections américaines de 2020, eh bien, elles sont aussi hantées, hein, par le fantôme de 2016 et les scandales de manipulation. Et là, forcément, on retombe dans notre sujet, hein, les réseaux sociaux. Vous en aviez parlé dans Youpi, c'est lundi, avec Camille. Les trois grands patrons de Facebook, Twitter et Google étaient déjà convoqués semaine dernière devant le Sénat pour prendre les devants et anticiper une situation de crise.
Ouais, il a été question justement de modération et de cette nouvelle loi qui est amené par les Républicains autour de la responsabilité des plateformes sur les contenus qui sont diffusés à l'intérieur. Est-ce que les plateformes doivent être responsables ou non ? Et en fait, la réunion a vite tourné en un débat politique entre démocrates et républicains. En même temps, pas étonnant, à moins d'une semaine des élections présidentielles. Les Républicains, en gros, souhaitent que les plateformes arrêtent de censurer Trump et d'autres élus républicains. Et les démocrates aimeraient qu'il y ait plus de modération de la part des plateformes pour lutter contre les fake news et les messages qu'eux considèrent comme des messages d'incitation à la haine. Donc, on sent bien que derrière toute cette crispation, il y a surtout le souvenir d'une élection 2016 où Donald Trump est sorti vainqueur, qui avait été quand même plus ou moins influencé par des puissances étrangères. On se rappelle du scandale Cambridge Analytica avec les fortes présomptions sur le fait que la Russie notamment ait pu influencer l'élection par l'achat d'espaces publicitaires sur Facebook ou la création de groupes privés Facebook, on en avait déjà un peu parlé dans le Super Daily, en essayant de faire monter un peu la sauce, d'attiser un peu la haine entre différentes minorités américaines pour imposer certains sujets au calendrier politique qui seraient plutôt bénéfiques à Donald Trump à l'époque.
Ouais, et donc, finalement, entre 2016 et 2020, les réseaux sociaux se sont renforcés et sans doute que le poids aussi, hein, du conversationnel, des discussions, des clivages au cœur des algorithmes se sont accentués. Hein. À titre d'exemple, plus de 9,7 millions de messages ont été échangés pendant la nuit de l'élection. Hein. Ça, c'est une étude qui nous est proposée par VisiBrain. Le jour du scrutin a généré une activité social média hors du commun. Entre le 3 et le 4 novembre, près de 10 millions de tweets. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et de manière plus large, l'élection américaine, ça a produit accroche-toi bien, plus de 573 millions de messages en l'espace d'un an. 573 millions de messages, c'est 6 fois supérieur à l'élection de 2016.
Ah, c'est énorme. Je crois que le chiffre là, de presque 10 millions de messages, c'est un nouveau record de bruit médiatique sur Twitter. Donc c'est même pour la plateforme quelque chose de complètement incroyable. Effectivement, c'est tout simplement une élection qui a intéressé tout le monde. Il y a la planète entière qui regardait ça. Et si la planète entière était autant intéressée par cette élection américaine, eh ben, c'est aussi parce qu'il y a Donald Trump à l'intérieur de cette élection américaine. Ça peut faire rire hein, certaines personnes, sa manière de communiquer à Donald Trump, mais il excelle dans sa communication publique et ça se ressent en termes de résultats sur les réseaux sociaux puisque 17 millions de tweets concernaient Donald Trump sur ces 24 dernières heures et c'est quasiment 2 fois plus que Joe Biden. Donc, on sent bien une différence de poids médiatique entre les deux candidats et en termes de followers, bah, c'est pareil, c'est bien Donald Trump avec ses 87,7 millions d'abonnés qui domine de loin Joe Biden avec ses 12,3 millions d'abonnés sur Twitter. Donc là aussi, on voit bien tout le poids et l'importance de Donald Trump.
Ouais, donc qui dit scrutin à part, hein, dit scrutin aussi social media, scrutin socialisé, en tout cas élection clairement qui se passe sur les réseaux sociaux. Et du coup, eh bien les plateformes, elles sont sur la brèche depuis plusieurs mois. On en avait parlé hein, depuis plusieurs semaines. On vous relate ici dans le Super Daily ces différentes annonces qui sont faites par les plateformes et ces nouvelles politiques sur pour prendre en compte les circonstances inhabituelles de l'élection de 2020 et puis aussi l'écosystème de désinformation hein, qui est énorme et inquiétant et qui s'accentue depuis plusieurs mois maintenant. Dans le désordre, on avait Twitter hein, qui avait annoncé et donné la couleur hein, dès le mois de septembre en déclarant qu'ils supprimeraient ou ils étiqueteraient tous les tweets qui incitaient à une activité illégale et notamment en menaçant la transmission du pouvoir pacifique. En gros, ils avaient prévenu en disant si certains menacent en disant en cas de résultats d'élection qui ne nous conviennent pas, on créera une guerre civile ou en tout cas on passera à des actes violents. Twitter avait d'ores et déjà dit en septembre, nous on sera extrêmement vigilants là-dessus. Facebook avait aussi posé un certain nombre de nouvelles règles, hein, avait déclaré qu'il prévoyait d'étiqueter tous les messages qui allaient revendiquer une victoire prématurée. On va en reparler de ces ouais. annonces prématurées en prévoyant l'insertion de messages d'information. Pardon, excuse-moi.
Vas-y. Non, j'allais dire, c'est un débat qui a animé effectivement ce débat-là, là, toute l'année 2020 quasiment, parce que là, ce dont on parle juste là autour de l'élection, c'est quelque chose qui a eu lieu depuis un moment. On l'avait vu au moment du mouvement Black Lives Matter et des violences policières aux États-Unis. Il y a certains messages de Donald Trump qui avaient été étiquetés justement par Twitter, qui n'avaient pas été faits tout de suite par Facebook. Et puis, avec deux points de vue du coup un peu différents entre Jack Dorsey, le patron de Twitter, et Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Et on voit qu'aujourd'hui, bah, Facebook a aussi évolué un petit peu en prévision de ces élections sur ces questions-là en essayant d'être un peu plus dans la prévention. Quoi.
Ouais, d'ailleurs, en termes d'évolution, hein, Facebook et Google d'ailleurs hein, ont annoncé eux qu'ils allaient refuser les publicités politiques après le scrutin du 3 novembre. Donc depuis le 3 novembre, il n'y a plus de publicité politique normalement sur Facebook et sur Google. Hein, ça, c'est une annonce forte qu'avait fait Facebook ces dernières semaines en disant on ne veut pas avoir d'influence néfaste sur cette phase qu'il faut sacraliser, qui est celle du dépouillement. Et c'est justement le chaos qu'on est en train de vivre en ce moment, un post-dépouillement, parce qu'au cœur de cette polémique, le dépouillement des bulletins par correspondance est vraiment le cœur du débat, le cœur des discussions. Hein. Depuis plusieurs semaines déjà, eh bien, le président Trump, il sème le doute hein, sur les réseaux sociaux et puis il parle ouvertement de risques de fraude liés à ces dépouillements. Hein.
Ouais, alors pareil, là on va rentrer un peu dans l'analyse de la communication de Donald Trump et je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant dans sa manière de communiquer, c'est que c'est lui qui impose son calendrier politique et donc quelque part son propre calendrier éditorial à tout le monde, aux journaux classiques, aux médias classiques et puis aux réseaux sociaux aussi, et il se sert justement des réseaux sociaux pour imposer ce calendrier éditorial. Alors je vais faire un parallèle qui peut paraître un peu bizarre au premier abord.
Je te vois venir.
On avait déjà parlé dans un super délit de cette technique de communication et nous à Lyon on a un certain président omnipotent, Jean-Michel Aulas.
J'étais sûr que tu allais faire ce grand écart là.
Oui, parce qu'en fait ils ont cette même technique de communication. On voit très bien Aulas arriver après les matchs quand c'est un peu la crise, quand il y a des choses compliquées, venir faire des sorties complètement invraisemblables où il frappe sur la tête d'un arbitre ou alors il frappe sur la tête la ligue ou du peu importe, mais
technique
il trouve toujours
de diversion.
Voilà, il trouve toujours quelque chose à dire et c'est lui en fait avec ses propos complètement hors propos qui impose un autre débat, un autre sujet plutôt que de parler du fond. Et du coup, bah Donald Trump, il fait un petit peu la même chose et là bah par rapport à cette élection en 2020, il a réalisé des sorties un peu folles mais qu'on pouvait sentir venir. Il a réussi à imposer son calendrier et c'est d'une manière totalement logique que Donald Trump est arrivé en disant avant les élections que de toute manière le résultat des élections allait être tronqué, que c'était pas, que ça pouvait être pas juste, que ça serait pas possible qu'il perde ces élections. Donc en gros, si jamais il y a une défaite de Donald Trump dans ces élections, il y aurait une triche des démocrates. Donc il impose directement avant même d'avoir commencé l'élection l'idée que de toute manière s'il perd, c'est que les démocrates ont triché, il y a pas d'autre possibilité. Donc ça met dans la tête un petit peu de tout le monde quand même que c'est une élection qui peut être compliquée à gérer. En tout cas, tous les journaux, tous les médias sociaux pendant les 4-5 jours qui ont précédé cette élection, on parlait que de ça, que du fait est-ce que on allait pouvoir avoir des vraies élections, est-ce que on allait pouvoir avoir un vrai résultat, et il a mis cette petite graine dans la tête de tout le monde.
Bah, c'est les mécaniques type du complotisme. Hein. C'est-à-dire, je donne quoi qu'il advienne, un scénario qui, de toute façon, marche, puisque le doute est permis. À partir de là, tout est envisageable. Alors, si on fait juste un petit peu maintenant, là, je m'éloigne volontairement des réseaux sociaux. Hein, on va parler juste politique américaine. Ce qui s'est quand même passé, et là, puisqu'on parle du dépouillement des bulletins par correspondance, hein, c'est le cœur du sujet. Hein, pour ceux qui ont suivi un peu la problématique, c'est que tout le monde a voté, sauf qu'il y a une quantité faramineuse de bulletins qui n'ont pas été dépouillés. Ce sont notamment ces bulletins par correspondance qui sont en nombre considérable cette année du fait de la pandémie, du fait de la crise du Covid. Et ce qui est très intéressant, c'est que Trump avait appelé ses électeurs à se déplacer pour aller voter. Hein. Vous savez à quel point Trump n'est pas tellement norme sanitaire. Hein. Il n'est pas très Covid, on va dire, le père Trump. Et donc, il avait invité tout le monde à aller voter là où les démocrates ont vraiment enjoint leur électeurs à user du dispositif à distance, à voter par correspondance. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que Trump annonce sa victoire officiellement. Bah pourquoi ? Parce que les premiers lots de dépouillement, ce sont les dépouillements physiques. Et en gros, si on résume, hein, il souhaiterait qu'on arrête tout aujourd'hui forme de dépouillement, et notamment les dépouillements qui vont être a priori favorables aux démocrates, c'est ceux qui sont faits sur les bulletins à distance.
Et oui, ça c'était la deuxième bande en fait. Hein. Comme tu dis, c'était un coup un peu en deux bandes, et le deuxième coup d'épée, c'était effectivement d'annoncer sa victoire avant même d'avoir vraiment les résultats.
C'est pas ouf, sans blague.
Il a été très malin.
Ouais, non, mais surtout annoncer sa victoire avant, c'est un truc que tu vois. Je suis désolé pour nos amis francophones africains, c'est un truc qu'on voit que dans certains pays. Ça, on serait pas attendu de voir ça aux États-Unis. C'est quand même barjot, quoi.
Non, mais effectivement, c'est assez fou de faire ça. C'est-à-dire qu'on est en plein dépouillement des élections. Il reste encore pas mal d'états clés à ce moment-là à finir de dépouiller pour vraiment savoir qui a l'avantage. Et Donald Trump, bah, en fait, tout simplement, il sent le vent tourner. Il sent que, comme tu disais, les votes par correspondance vont commencer à être dépouillés et qu'ils risquent de se faire remonter. Et du coup, bah, il réussit un grand coup puisqu'il va sur les réseaux sociaux et il commence à annoncer qu'il a gagné, tout simplement. Et là, un peu comme le fonctionnement d'une fake news, et bah tout le monde le reprend, même si c'est pour dire qu'il a tort. Tout le monde le reprend, tout le monde en parle. Moi, j'ai vu ça dans le direct du Monde. Il y avait Donald Trump, les bras grands ouverts, qui annonçait qu'il gagnait l'élection. Et en fait, ça peut paraître bête comme ça, comme fonctionnement, mais les élections américaines, c'est quand même assez compliqué avec des dépouillements, comme tu disais, très longs. En plus, une démocratie indirecte où il faut recompter état par état. Donc après, qui a gagné quel état pour compter les grands électeurs qui vont élire le président. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont pas aller chercher à vraiment aller très loin pour savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, est-ce que ça a basculé d'un côté, de l'autre, etc. Et qui vont tout simplement se dire, bah si Trump a dit qu'il avait gagné, c'est qu'au final ça doit peut-être être vrai, quoi. Donc et ça s'arrête là. Et en fait, bah comme ça, il est sûr de gagner, Trump, parce que si jamais Joe Biden repasse devant, et bah Trump pourra toujours raconter qu'il avait dit que c'était truqué avant et que c'est super bizarre qu'il était devant pendant tout le début de l'élection et qu'après il était remonté comme par hasard à la fin. Et puis si jamais Trump gagne vraiment l'élection, il dira juste qu'il l'avait vu avant tout le monde et que malgré les tricheries des démocrates, il a quand même gagné. Quelque part, il ne perd jamais.
Effectivement, et c'est là où on va voir si les médias officiels, on va dire, en tout cas les médias sérieux, ont encore un rôle à jouer, peuvent encore peser face à la déferlante social media qui embarque parfois, évidemment, des fake news. Ce discours d'annonce où on voit Trump avec des centaines de drapeaux américains et dire « oui, j'ai gagné », ce discours, il a été évidemment diffusé sur toutes les chaînes de télévision et notamment sur NBC, qui a, pour sa part, choisi d'interrompre le président candidat à sa réélection. C'est un truc qui n'arrive pas habituellement. Ils ont éteint le discours en disant non, en fait, on ne peut pas diffuser ce discours de Donald Trump parce que c'est faux. Donc, ils ont pris ce choix-là. Et sur Fox News, Fox News, vous le savez, c'est la chaîne de télé qui habituellement est favorable au président des États-Unis. Exactement. Ils ont laissé la séquence en entier, mais le journaliste Chris Wallace, derrière, il a réagi au terme de cette prise de parole en disant que la situation était extrêmement inflammable et que le président venait de jeter une allumette au milieu des braises.
Si même Fox News se met à mettre des guillemets autour de ce que dit Donald Trump, c'est quand même fort.
Ça, c'est du côté des médias officiels. Et sur les réseaux sociaux, eh bien évidemment, là, l'engrenage est lancé et c'est pas prêt de s'arrêter. Peu importe les résultats officiels, les États-Unis vont au devant d'un chaos généralisé. Pourquoi? Eh bien parce que les rumeurs de fraude, elles explosent évidemment sur les réseaux sociaux avec un hashtag qui est Stop the Steal. Arrêtons le vol. C'est un mot d'ordre général qui a été lancé évidemment par le camp Trump et qui agrège des témoignages venus des quatre coins des États-Unis qui sont censés démontrer que des fraudes électorales existent. Et qu'est-ce qu'on trouve derrière hashtag Stop the Steal? Eh ben des vidéos plus ou moins foireuses de gens qui montrent que en Arizona on a des preuves que les bulletins ils étaient marqués en amont pour pas être comptabilisés, des preuves que tout n'a pas été dépouillé comme il fallait, etc., etc. Tout ça a été vu des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux en quelques heures, et ça va aller crescendo. Alors juste au milieu de cette bulle de fake news dégueulasse, il y a une initiative quand même que je trouve assez rigolote, c'est celle du bureau du commissaire de la ville de Philadelphie, donc le bureau de dépouillement énorme. Vous avez peut-être vu ces images, c'est pas les bureaux de l'école primaire de ma fille, comme nous quand on fait des élections où tu vas assister au dépouillement et tu as trois personnes sur des chaises d'enfants. Là, on parle de bureaux gigantesques. Et le commissaire de la ville de Philadelphie a choisi, lui, de mettre en place un streaming en direct du dépouillement. Donc, tu as un streaming sur Facebook actuellement du dépouillement global qui va durer des heures. C'est sans doute le live le plus chiant au monde.
Ouais, c'est clair.
Voilà. On peut voir des dizaines de travailleurs avec des masques, des tenues en gilet jaune, etc., qui trient les bulletins de vote. Mais par contre, ça permet peut-être de rassurer, en tout cas de montrer aussi que les réseaux sociaux, ils peuvent rapporter de la vérité. Et la vérité, c'est que oui, le dépouillement est encore lieu. Oui, le dépouillement se fait dans les règles comme il faut. Voilà, je trouve ça intéressant.
Ouais, effectivement, les réseaux sociaux, ça peut aussi apporter de la transparence, comme on en parle souvent avec les marques. C'est possible aussi là, sur des élections, effectivement, avoir un petit streaming très relou dans la salle de confinement en direct. Et comme ça, si t'as envie de surveiller ce qui se passe dans ton bureau de vote, tu peux voir si les gens trichent ou pas. Mais
oui,
après, faut aller se taper les heures et les heures de direct, parce que je vais te dire, à Philadelphie, il y a du votant.
Ouais. Totalement. Bon, écoutez, on aura l'occasion de reparler de tout ça, évidemment. Je pense que l'affaire est loin d'être terminée. Si vous souhaitez échanger avec nous de tout ça, parler politique américaine, puis surtout parler réseaux sociaux, retrouvons-nous sur les plateformes @supernatif.
Sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn, sur TikTok ou même sur Pinterest. N'hésitez pas, venez en parler avec nous. Et bien sûr, vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast. Alors, n'hésitez pas à nous laisser une petite note, un commentaire, ça nous fait super plaisir. Et surtout, parler de notre podcast autour de vous.
Je peux dire un mot. Ce matin, tu m'as envoyé une photo.
La consécration,
voilà, le podcast Le Super Daily est dans 01 Net, le magazine 01 Net. Je disais consécration parce que c'est vraiment le magazine des papas geeks, en tout cas du mien. Moi, je sais que depuis tout petit, j'ai des piles de 01 Net qui traînent dans la maison de mes parents. Voilà, donc papa, je pense à toi ce matin, ton fils est dans 01 Net, c'est pas rien.
C'est trop mignon.
Bon, merci à vous tous et rendez-vous dès demain. Salut tout le monde, ciao.
Ciao.